Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une enquête policière baptisée Virus, plongée inédite dans les rouages sinueux des mécanismes de blanchiment. Débutée en février 2012, cette enquête menée par les policiers de la brigade financière va mettre au jour un vaste réseau de recyclage de l'argent sale en argent présentable. Une alchimie délictuelle, un réseau dans lequel trafiquants de drogue et fraudeurs fiscaux naviguent ensemble sans réellement le savoir et grâce auquel les instigateurs de la manœuvre vont tirer des profits colossaux. Sur les bases d'un système financier occulte, les blanchisseurs vont en effet bâtir une gigantesque entreprise de dissimulation de l'argent, mettant à profit tous les mécanismes offerts par un monde financier hors de contrôle et par une abondance d'argent liquide, celui qui n'a ni odeur ni saveur, autrement dit pas de provenance officielle. Notre invité aujourd'hui, Quentin Mugue, officier de police, capitaine pour être précis. Il a dirigé le volet financier de cette enquête hors norme, une affaire d'ailleurs qu'il a racontée dans un livre coécrit avec la journaliste Hélène Constanti, livre intitulé « Argent sale, la traque », édité chez Fayard. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Gaspard Valu, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Février 2012, près d'une porte du périphérique nord de Paris. Ce jour-là, une équipe de la brigade des stupes est en observation dans un sous-marin, l'un de ces vannes aux vitres sans timbres desquelles les policiers peuvent voir sans être vus. Cela fait plusieurs semaines qu'ils sont sur les traces de l'un des plus gros réseaux de trafic de cannabis de la région. Sofiane, le chef de ce réseau, n'est pas un petit joueur. Ce grossiste dirige une véritable entreprise. Et le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'elle ne connaît pas la crise. En 8 mois d'enquête, les policiers de la brigade des stupes estiment qu'il a importé plus de 6 tonnes de résine pour un chiffre d'affaires astronomique de 40 millions d'euros. L'enquête des stupes est bien ficelée. On connaît les canaux de distribution, on a identifié les lieutenants, tout comme les gros bonnets du trafic. Mais durant leur planque, les policiers observent régulièrement un étrange manège. Plusieurs fois par semaine, des petites mains du réseau de Sofiane retrouvent des hommes qui semblent être en dehors du trafic et leur remettent des sacs bourrés d'argent liquide. Alors, pour ne pas laisser les millions d'euros du trafic s'évaporer dans la nature et frapper les trafiquants là où ça fait mal, les stupes décident d'alerter la brigade financière. C'est Quentin Mugue, capitaine de police au sein de l'Office central de répression de la grande délinquance financière, qui reçoit l'appel. Et dans son livre « Argent sale, la traque », il explique.
Maintenant que le trafic de drogue est établi par les stupes, c'est à notre groupe d'entrer en action pour le volet financier, à notre tour de mettre en place des écoutes et des surveillances qui vont nous permettre d'observer les hommes de Sofiane en train de remettre des sacs de billets à d'autres personnages. Des hommes discrets, sans casquette ni suite à capuche, qui roulent dans des voitures sobres, s'arrêtent au feu rouge et vivent dans des logements sociaux de la banlieue parisienne.
Le capitaine de police dirige une équipe de 6 enquêteurs. Il est à la tête du GOAB numéro 3, le groupe opérationnel anti-blanchiment numéro 3 donc. Et ils ne sont pas tout à fait des policiers comme les autres. La brigade financière fait partie en effet de ce grand ensemble qu'est la police judiciaire, la PJ. Et c'est à ces différentes divisions que reviennent les grandes enquêtes. Tout en haut de la pyramide, il y a la CRIM, chargée des enquêtes de grand banditisme et de terrorisme. Après viennent les stupes, ceux qui font le chiffre avec des interpellations musclées et des saisies spectaculaires. Et puis les autres, et parmi eux, la financière. Alors, on a tendance à imaginer des flics plutôt placides, taiseux, toujours près de leur bouilloire, pour le thé, passant leur journée à la tête longée dans des relevés de comptes. Mais c'est loin d'être la réalité. À la financière, au contraire, il y a un vrai travail de terrain. Et l'objet de ces enquêtes n'est pas aussi évident que celui d'une enquête policière classique, type homicide ou trafic de drogue. Parce que, quand il s'agit de blanchiment d'argent, les choses sont tout de suite plus compliquées, plus opaques. Qu'a fait exactement le suspect? Blanchiment de quoi? Comment? Où sont les preuves? Et surtout, où est l'argent? Une question essentielle, car tous les grands criminels partagent le même besoin de mettre le fruit de leur labeur à l'abri. Ce dénominateur commun permet aux policiers de la financière de rencontrer tout type de voyous et surtout de ne travailler que sur des gros poissons. C'est en tout cas l'avis du capitaine Mug.
La financière m'a permis de me spécialiser et de travailler sur une clientèle choisie. Ne blanchissent que les criminels les plus performants, ceux qui réussissent vraiment. Le vendeur de barrettes de shit du coin de la rue va s'acheter un survêtement, une voiture bruyante avec un aileron et partir en vacances en Thaïlande. Il n'a pas besoin de blanchir son petit magot. Son grossiste, en revanche, c'est une autre histoire.
Quand le groupe anti-blanchiment numéro 3 hérite de l'enquête initiée par ses collègues de la brigade des stupes, il dispose déjà d'un solide dossier. L'enquête sur le volet financier de l'affaire baptisée Virus peut alors débuter. Ce sont les stupes qui ont appelé l'enquête Virus. Ils ont bien fait leur boulot. Déjà, ils ont identifié une dizaine de personnes liées au blanchiment et plusieurs lignes de téléphone ont été placées sur écoute. Les enquêteurs de la financière vont d'abord concentrer toute leur attention sur les collecteurs. Ces hommes, apparemment au-dessus de tout soupçon, qui viennent récupérer des sacs et valises pleines de billets plusieurs fois par semaine auprès de petites mains du réseau de Sofiane. Et les policiers savent que l'organisation du trafiquant a beaucoup d'argent liquide à blanchir. Lors d'une écoute téléphonique entre Sofiane et son fournisseur marocain, les deux hommes discutent des quantités écoulées en quelques jours seulement. 307 kilos de cannabis pour une recette totale de 643 000 euros, ça fait beaucoup de billets. Alors, plusieurs fois par semaine, Sofiane organise la collecte de l'argent. Quentin et son équipe identifient plusieurs réseaux de collecteurs. Eux ne sont jamais des trafiquants. Ils ont toujours un casier judiciaire vierge. Ils sont recrutés partout. Et idéalement, rien ne doit permettre de les différencier du quidam de la rue. Parmi eux, il y en a un qui a le profil idéal, qui peut se déplacer partout dans Paris sans jamais éveiller les soupçons. Et pour cause, il est ambulancier. Le journaliste Nicolas Vercovacci l'a rencontré pour le documentaire Cash Investigation, Cannabis, la multinationale du blanchiment, diffusé sur France 2 en octobre 2019. Devant la caméra, il explique son rôle au sein du réseau auquel il appartient.
Alors là, on arrive à l'endroit où plusieurs remises ont été effectuées, ici, à la station Total. On venait, on se mettait ici, à cet endroit-là. Hop, on se garait comme ça. Ici, je viens chercher de l'argent, à cet endroit-là.
Oh, c'est des gens que vous connaissez qui vous remettent de l'argent?
Non, quoi, on ne connaît pas. On ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. C'est des gens qui nous appellent, on se donne rendez-vous, et puis on vient. Donc, une fois, il arrive avec son sac.
Et quel genre de sac?
Un sac plastique... Un sac qu'on peut trouver dans le commerce. Là, par exemple, ce sac, il peut contenir 50 000 euros.
Mais vous, le genre de somme en moyenne que vous veniez chercher, c'était combien?
C'était entre 150 et ça peut aller jusqu'à 500, 600 000 euros. C'était 3 à 4 fois par semaine.
C'est une collecte quasi industrielle.
Voilà, si on peut dire ça comme ça. Oui.
Ouais, c'est d'accord. Voilà.
Durant leur enquête, les policiers de la brigade financière parviennent à placer une caméra dans le local de la société d'ambulance où travaille le collecteur. C'est là qu'ils comptent et trient le cash à l'aide de l'outil essentiel de tout bon blanchisseur, une compteuse à billets. Et elle tourne à plein régime. 5 millions et 200 000 euros collectés tout au long de ces 7 mois d'enquête, effectivement, il y a de quoi compter. Mais les trafiquants sont prudents et ne veulent pas mettre tous leurs billets dans le même panier. Ils font alors appel à plusieurs réseaux de collecteurs. Lors de leur filature et écoute téléphonique, les enquêteurs du groupe anti-blanchiment font la rencontre d'Abdel Wafi, un jeune étudiant en sociologie. Lui est payé 1600 euros par mois pour se rendre un peu partout en région parisienne et récolter l'argent des trafiquants. À lui seul, il récupère près de 34 millions d'euros sur 8 mois. Le chef de son réseau est étudiant lui aussi. Il s'appelle Mohamed, mais tout le monde le surnomme Lunette. Ce Marocain, installé en France depuis un peu plus de 6 ans, est à la tête d'une véritable PME de collecte d'argent sale. Et il ne manque pas de travail.
Mohamed habite dans le 15e arrondissement de Paris. Lorsque nous nous présentons à son domicile, le jour du coup de filet de l'opération Virus, l'oiseau s'est envolé. Il est parti au Maroc rendre visite à sa famille en laissant derrière lui son ordinateur portable. Erreur fatale. Nous y découvrons toute sa comptabilité, soigneusement tenue, qui devient une pièce maîtresse de notre dossier. Dans ces tableaux Excel figure l'ensemble des collectes et des remises, notamment à Marco. Les sommes qui transitent entre ses mains sont hallucinantes. Au cours des 30 mois précédant la saisie de sa comptabilité, il a collecté plus de 230 millions d'euros, dont 121 au cours de l'année écoulée, intégralement en cash.
Lunette, comme l'ambulancier et les autres collecteurs, parce qu'il y en a d'autres évidemment, ne sont que des intermédiaires, des petites mains du blanchiment. Mais ils sont les premiers maillons d'une chaîne que les enquêteurs de la brigade financière comptent bien remonter. Le prochain maillon de la chaîne est d'ailleurs très vite repéré par les stupes. Il le surnomme Marco. C'est à lui que les différents réseaux de collecteurs remettent une grande partie de l'argent de la drogue. Lorsque Quentin Mugg récupère le numéro de téléphone placé sur écoute, il comprend tout de suite que ce Marco est un personnage clé de l'affaire. Il est l'un des rouages d'un vaste réseau que les policiers ne soupçonnent pas encore.
J'ai débuté ma carrière dans un hold-up. Audacieux. Il y avait de la cervelle par terre. Les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait ses fins de mois. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir à la plume et au pochoir. Voyager dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans ou de la soie, en Jaguar et en Matra. Je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus. J'étais même au PSU, au parti, et à minute, avant de faire la culbute dans les poches de Lavilliers, ouais, mais ça n'a pas duré. J'ai dormi chez des prélats, entre deux doigts d'arnica, trois bons mots, une caresse, au vicaire et sur les fesses. Je suis le pouvoir d'achat, je suis celui qui décomplexe, je suis le dernier réflexe qu'on n'est pas prêt d'oublier. Essayez de me supprimer dans un coin sur la planète. Il y en a qui feraient une drôle de tête, il y en a même qui en sont morts, à l'IND dans le décor. Je suis passé sous les tables, j'ai glissé sur des tapis, dans des poches confortables, j'ai pris un peu de répit. Dans les mains d'un mercenaire, puis dans la révolution, j'ai participé, mon frère, à des tas de combinaisons. Si tu savais ce que je sais. Dans quelles mains je suis passé. Tu t'en ferais pas beaucoup pour ta petite éternité. J'ai voulu me racheter. Mais voilà, j'étais trop cher. Depuis que les financiers mettent mes vertus aux enchères. Depuis que les poètes maudits comptent leurs économies. Je suis une pute tonnerre d'acier, je sais tout mais je dirai rien. C'est peut-être préférable pour l'idéal républicain. J'aimerais crever, tu sais. J'aimerais qu'on me foute.
France Inter, affaires sensibles.
Bernard Lavilliers vient de nous chanter les aventures extraordinaires d'un billet de banque. Eh bien, allons-y. Et dans le réel, nous en étions restés à Marco, celui qui reçoit l'argent des collecteurs. Il n'est pas un criminel classique. En l'apparence d'ailleurs, il n'a rien d'un criminel. Non, c'est un monsieur tout le monde qui roule dans une voiture banale et porte des costumes sans prétention. Il n'est pas rompu à l'exercice périlleux d'évitement de la police. Et précisément, Ce manque de professionnalisme va très rapidement lui jouer des tours. Dès la première filature, en effet, que les enquêteurs mettent en place, le blanchisseur commet une erreur de débutant. Ce jour-là, il vient récupérer de grosses sommes auprès d'un collecteur. Mais il débarque au volant de sa propre voiture. Alors, il ne faut que quelques minutes au policier resté au bureau pour taper la plaque d'immatriculation dans le fichier national et retrouver l'identité de ce fameux Marco, qui s'appelle en réalité Mardoché Elmaleh. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce Mardoché va être très utile aux policiers.
Tout au long de l'enquête, Mardoché commet des erreurs grossières, souvent hilarantes. Il a par exemple mis au point un langage codé, peu convaincant, basé sur les pointures de chaussures pour évoquer la valeur des billets remis. « Et les chaussures, c'est quelle pointure ?» demande Marco au collecteur. « Pointure 50 ?»« Quoi ? Il n'y a pas de pointure 200 ou 500 ?» En d'autres occasions, il ne manquera pas de se faire renverser par une de nos voitures ou d'appeler un client dentiste pour lui remettre 3 caries ou encore à un autre de proposer de transporter 30 boîtes de vitesse en RER. Marco est un cadeau tombé du ciel. Empoté, distrait, brouillon, il ne respecte aucune des règles de sécurité élémentaires.
Durant les écoutes du téléphone de Mardoché Elmaleh, les enquêteurs observent des contacts quasi quotidiens avec la Suisse, où se trouvent ses frères banquiers, mais aussi avec le Maroc, d'où de nombreuses instructions de remise de cash semblent venir. C'est donc de l'autre côté de la Méditerranée que le groupe anti-blanchiment poursuit son enquête. Et ça n'est pas totalement hasard. Le Maroc est le premier producteur au monde de résine de cannabis. C'est de là que partent les plaquettes qui sont vendues partout en Europe. Et c'est donc de là que doit revenir une partie du cash que génère ce trafic. Pour faire revenir les euros du cannabis au Maroc, les trafiquants s'appuient sur un personnage clé, le Saraf, qui est en réalité un changeur, un facilitateur. Ce rôle est ancestral et la pratique remonte au Moyen-Âge. Oui, elle permettait de faciliter les échanges entre commerçants arabes et indiens le long des grandes routes commerciales. La façon de fonctionner d'un Saraf est désarmante de simplicité. Prenons un exemple, quasiment un cas d'école. Un trafiquant de drogue souhaite rapatrier 500 000 euros au Maroc depuis la France. Eh bien, il lui suffit d'appeler son Saraf pour qu'il lui envoie un collecteur. Le trafiquant récupère ensuite le même montant en dirhams, parfois dans la même journée. Ce système est baptisé Hawala.
Dans le monde arabe, Hawala est synonyme de confiance. La réputation du Saraf repose donc sur ce principe de confiance totale. La transaction s'opère de manière anonyme, sans registre officiel. Le Saraf ne délivre donc aucun reçu. Il donne simplement sa parole au client et se porte garant de l'argent qui lui est confié. S'il le perd, quelle qu'en soit la raison, un vol, une perte, un accident ou plus rare, une saisie policière, il s'arrangera pour que rien ne transparaisse. Il remettra la somme promise au client, sans lui dire un mot de sa mésaventure. Il en va de sa réputation.
Pour que ce service fonctionne, Saraf s'appuie sur un système de compensation grâce auquel l'argent ne circule jamais vraiment. Le mécanisme est le suivant. Lorsqu'il récupère les 500 000 euros à Paris, l'argent liquide ne quitte pas le territoire français. Le Saraf trouve, via ses réseaux, un autre client qui, lui, aura besoin de récupérer 500 000 euros. Et pour remettre la somme en dirhams au Maroc, le Saraf récupère cette somme auprès de clients marocains, hommes politiques, militaires ou notables, qui souhaitent faire sortir discrètement la somme du royaume. Ensuite, l'argent liquide des fraudeurs marocains est remis au client initial qui souhaitait récupérer les 500 000 euros du trafic de drogue parisien au Maroc. Et à la fin, tout le monde récupère son argent. Le Saraf aura prélevé une commission sur chacune des opérations, bien sûr. Plus cet intermédiaire dispose de clients, donc de points de retrait et de collecte, plus il est en capacité de fournir un service rapide et constant. Pro, quoi. Les différents Saraf, et ils sont des milliers au Maroc, en France et ailleurs à travers le monde, travaillent ensemble. Ensemble donc, ils sont comme de grands consortiums bancaires. Ils étendent leur réseau pour être en capacité de fournir le plus de services possible dans le plus de points de la planète possible. Pour un trafiquant de drogue, le Saraf est donc d'une très grande utilité. Il permet de rapatrier de l'argent là où il le souhaite, mais aussi d'en disposer, et ce, en toute occasion. Dans le documentaire de Cache Investigation, réalisé par Nicolas Vescovacci, un trafiquant se confie sur ce rôle de l'ombre, essentiel à tout bon criminel.
Le Saraf, c'est une sorte de banquier occulte. Il récupère l'argent en France et le redistribue au Maroc, en Espagne, où t'en as besoin.
C'est un système étonnant, non ?
C'est le même principe que le système bancaire, sauf que ça se fait par téléphone et à la confiance.
Et cet argent, vous pouvez vous le faire livrer comme ça ?
Partout dans le monde. Moi, ça m'arrivait d'aller en vacances à Dubaï, aux États-Unis, partout. J'évitais de voyager avec, de passer les douanes avec des grosses sommes sur moi. J'appelais mon Saraf et lui me faisait remettre l'argent.
Il faut donc lui faire confiance à 100% à ce garçon.
Ouais, cette fille. Ces banquiers sont des gens de toutes les nationalités. J'ai eu affaire à des Chinois, des Juifs, des Indiens, des Blacks. Franchement, c'est multiculturel.
Ce qui compte donc, c'est la confiance.
La confiance, c'est le pognon. Tu donnes du liquide, on te rend du liquide.
En règle générale, un Saraf est discret, mène une vie calme et beaucoup de petites épiceries de quartier au Maroc comme en France sont des façades pour ses activités de change illégale. Mais dans le cadre de l'affaire Virus, le groupe opérationnel anti-blanchiment numéro 3 est sur les traces d'un Saraf peu ordinaire. Celui que les policiers suivent s'appelle Simon. Il est âgé d'une quarantaine d'années et dispose de la double nationalité marocaine et israélienne. Il a grandi et vit à Casablanca. Officiellement, il tient un modeste commerce de pièces détachées automobiles, une petite boutique avec le comptoir qui donne directement sur le trottoir et dont il tire un confortable salaire de 5000 euros par mois. Mais à l'étage de son bureau, la compteuse habillée tourne à plein régime. Et même s'il est méfiant et change souvent de numéro de téléphone, Simon est un Saraf hyperactif. Il passe des centaines de coups de fil par semaine et organise dans le détail les remises d'argent de ses clients trafiquants. À l'inverse de la plupart des Sarafs, Simon est proactif et cherche en permanence à étendre sa clientèle.
Il commençait même à inquiéter ses partenaires par son manque de discrétion. Il circulait partout en proposant ses services à la vue de tous. Sa grosse Jeep blanche était si connue que lorsqu'on la voyait stationner devant chez quelqu'un, les gens disaient « Tiens, Simon vient prendre l'argent ».
Si une partie du business du Saraf se fait au Maroc, à Paris aussi, Simon a besoin d'écouler les valises de billets que lui fourquent ses clients trafiquants de drogue. Et c'est là qu'entre en scène le dernier protagoniste de l'affaire, qui n'est autre que Meyer Elmaleh, le frère de Mardoché, le collecteur dont nous avons parlé un peu plus tôt dans le récit. Les policiers de la brigade financière repèrent Meyer dès le début de leur enquête. Il est l'un des correspondants réguliers de Mardoché, à qui il donne les instructions pour les remises d'argent liquide. Et encore une fois, c'est grâce à l'imprudence des collecteurs parisiens que le capitaine de police parvient à dégoter un portrait de Meyer. Tout simplement en se rendant sur Facebook. Le frère parisien a mis en ligne plusieurs photos, dont un cliché de famille, sur lequel Meyer, Mardoché et leurs quatre frères et sœurs posent, tout sourire, bras dessus, bras dessous. Facebook, cette façon de vouloir s'afficher dans l'espace public, histoire d'exister, peut jouer des tours. En tout cas, la photo épinglée au mur du bureau de la brigade financière tout au long de l'enquête va permettre aux policiers de mieux cerner ses protagonistes du volet suisse de l'affaire. Chez les Elmaleh, tout est histoire de famille. Il y a Nessim, le petit dernier, qui travaille avec son frère aîné à la tête d'une division de la HSBC Private Bank et qui va s'avérer utile pour le petit business familial. Et Fréa, l'unique sœur, qui vit dans le dixième et qui, comme son frère Mardoché, apporte sa contribution au business de Meyer. Meyer, Elmaleh, est banquier. Et selon les policiers, il est aussi à la tête d'une véritable lessiveuse. Visiblement, il mène la grande vie. Il est le plus exubérant des frères Elmaleh. Il réside dans une magnifique villa à Conches, en banlieue de Genève, possède plusieurs propriétés à Megève, Paris, Casablanca ou Tel Aviv, ainsi qu'un appartement en bord de mer aux Bahamas. Un personnage fantasque qui ne passe pas inaperçu auprès des enquêteurs français.
Les écoutes et surveillances montrent Meyer sous les traits d'un homme excentrique et dépensier. Lorsqu'il se rend à Paris, il descend toujours dans le même hôtel de luxe de la rue Marbeuf, à deux pas des Champs-Élysées. Il dépense des sommes folles dans les boutiques. Dans un rayon de 500 mètres autour de son hôtel, en 3 ans, il a claqué plus de 850 000 euros. Et sur la foi des auditions des commerçants du quartier, on lui réserverait volontiers une place au Panthéon.
« Meyer Elmaleh dirige la société GPFSA, une officine de gestion de fortune créée par son beau-père et dont il a récupéré la direction à la mort de celui-ci. La société est installée dans la maison des Pans, l'un des plus beaux immeubles à Renouveau du quartier des Banques de Genève. GPFSA a construit sa réputation en assurant la gestion du patrimoine de fraudeurs fiscaux, français pour la plupart. Et lorsqu'il en prend la tête, Meyer Elmaleh ne manque pas d'ambition et compte bien développer la clientèle vers de nouveaux marchés. C'est lors d'un voyage au Maroc, où il prospecte régulièrement, que Meyer Elmaleh décide de s'associer avec Simon, le Saraf de Casablanca. Lors de son interpellation, Meyer dit aux enquêteurs connaître Simon depuis l'enfance, quand ce dernier affirme l'avoir rencontré, lui, un an et demi plus tôt. Tiens donc. Toujours est-il que les deux hommes mettent en place un partenariat prolifique. Simon a besoin d'écouler le cash qu'il reçoit à Paris. Meyer lui a besoin de cash pour alimenter de riches clients qui souhaitent profiter de leur argent caché en Suisse sans avoir à passer la frontière avec des valises remplies de billets. Bien. De quoi alimenter Simon, toujours en recherche de moyens de compensation. Grâce au banquier genevois, le Saraf dispose de toute une panoplie de services à proposer à ses clients. Et il ne se contente pas de proposer du cash contre du cash, non. Si un trafiquant souhaite par exemple placer 500 000 euros issus du trafic de drogue sur un compte en banque, eh bien il lui suffit d'appeler Simon qui enverra alors Mardoché récupérer l'argent liquide. Celui-ci ira distribuer cet argent aux fraudeurs fiscaux qui auront entre-temps réalisé un virement vers le compte londonien de Meyer Elmaleh qui lui-même versera cet argent sur un compte détenu par une société écran dont le trafiquant est bénéficiaire final. Un montage compliqué, et si vous n'avez pas tout saisi, retenez simplement qu'il bénéficie autant aux trafiquants qu'aux blanchisseurs et aux fraudeurs fiscaux. Il est alors tout à fait clair, car tout n'est pas opaque dans cette histoire, que le compte londonien sur lequel transite l'argent de cette délinquance, qui englobe les fraudeurs fiscaux bien sûr, est au cœur du système mis en place par Meyer. C'est la fameuse chambre de compensation, sans laquelle rien n'est possible. Ce compte est détenu par la société New Deal Limited, une coquille vide gérée par Meyer Elmaleh, dont la mission est de blanchir l'argent en réalisant toute une gamme d'opérations financières destinées à brouiller les pistes. C'est Laure, l'ancienne secrétaire de Meyer, qui a livré une partie des secrets du système. Très impliquée dans les affaires de son patron, elle était chargée de suivre au quotidien la gestion de ses clients. Elle a longtemps tenté d'échapper à la police française, mais elle a fini par être arrêtée et dévoiler ses secrets aux enquêteurs de la brigade financière.
Laure se confie comme une repentie de la mafia italienne qui balance tout ce qu'elle sait sur le fonctionnement de l'organisation. Une garde à vue est une expérience traumatisante, et pourtant, au terme des 4 jours, le maximum autorisé par la loi, elle en redemande. Alors que nous nous apprêtons à la présenter à un juge d'instruction, elle demande plus de temps, elle a encore des choses à dire. Son avocat est éberlué en la voyant pleurer au moment de nous dire au revoir.
Grâce à Laure, les enquêteurs connaissent désormais l'étendue des activités de Meyer Elmaleh. Pour ceux qui ont besoin d'aide, GPF s'occupe de tout. La société de gestion de fortune se charge d'ouvrir des comptes, de créer des trusts, de monter des sociétés offshore. Et pour mettre en place ces montages, l'officine de blanchiment travaille main dans la main avec le cabinet panaméen Mossack Fonseca. Un cabinet qui se retrouvera en 2016 au cœur de l'enquête du consortium international des journalistes baptisé Panama Papers. Toute la clientèle de GPFSA a le droit à ses services premium. Que ce soit un trafiquant de drogue qui souhaite blanchir son argent ou un gérant de société immobilière qui a besoin de falsifier et d'antidater des documents pour échapper par exemple à un scandale d'évasion fiscale qui sévit en France. Le 12 octobre 2012, après 8 mois d'une enquête harassante, le groupe opérationnel anti-blanchiment possède assez d'éléments pour passer à l'action. Un vaste coup de filet est mis en place entre la France, le Maroc et la Suisse. À Paris, les têtes tombent. Et ce ne sont pas uniquement les blanchisseurs qui sont attrapés. Leurs clients aussi. Et certains vont faire parler d'eux. « Ils sont 17 désormais mis en examen dans l'enquête sur le réseau franco-suisse de blanchiment d'argent.
Un réseau qui trouvait son origine au Maroc et qui opérait principalement à Paris et à Genève. Trafic de cannabis, blanchiment d'argent récolté. Le système était complexe et favorisait manifestement certains notables parisiens tentés par l'évasion fiscale. C'est précisément ce qui est reproché à Florence Lamblin, cette élue Europe Écologie Les Verts, adjointe au maire du 13e arrondissement. La police a saisi 350 000 euros lui appartenant, mais elle clame son innocence. Cet argent est le fruit d'un héritage, dit-elle.
Les fraudeurs fiscaux, ces gens qui appauvrissent un État déjà pauvre et qui a bien du mal à assurer sa mission d'amortisseur social, se retrouvent mêlés à ce gigantesque réseau de blanchiment de l'argent de la drogue. Alors, pour éviter d'avoir leur nom étalé dans la presse, beaucoup d'entre eux vont avoir recours à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, une sorte de plaidé coupable à la française. Résultat, d'énormes amendes et de sévères redressements fiscaux leur sont infligés. Du côté des blanchisseurs, Simon a passé quelques semaines en détention préventive et il a réussi à prendre la fuite pour le Maroc avant le début du procès. Il est condamné à 6 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Meyer El Malay, lui, pensait pouvoir échapper à la justice française après avoir été déjà jugé en Suisse. Mais il est finalement arrêté à Londres en 2016. Extradé en France, il est mis en examen, puis laissé en liberté sous contrôle judiciaire contre le paiement d'une caution de 2 millions d'euros. Il parvient tout de même à quitter l'Hexagone. En son absence, il est condamné à 6 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Les 105 000 euros détenus sur ses comptes français et son appartement parisien sont confisqués. Après un procès en appel et en cassation, la décision est définitivement confirmée en septembre 2020. Arrêté en France, marre de chez lui, et condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Grâce à sa collaboration, Laure, elle écope d'une peine légère. Quant à Lunette, un habitué des gardes à vue, lui a mis à profit son incarcération pour écrire une thèse en sociologie ethnographie d'une criminalité transcontinentale. Mais oui, bon, en clair, le journal d'un apprenti sarafe. L'affaire Virus a permis au fisc de récupérer plus de 100 millions d'euros et à la justice d'en confisquer 18. Elle a surtout permis aux policiers de mettre au jour un système complexe de blanchiment d'argent qui ne pourrait plus tromper personne aujourd'hui. Une réussite pour des enquêteurs à qui il reste tout de même bien du pain sur la planche.
Servir tes idées, moi j'en renonce à mes dents, j'aurais peut-être moins à manger, mais je disposerai de moi.
Vous écoutez Affaires Sensibles qui vous emmène aujourd'hui dans une grande lessiveuse avec notre invité Quentin Mugue. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes capitaine de police, le fameux capitaine de police dont on a tant parlé dans le récit, et c'est normal puisque nous sommes largement inspirés de votre livre Quentin Mugue, écrit avec la collaboration de Hélène Constanti. Ce livre s'appelle Argent sale, la traque, et puis il y a le sous-titre qui est toujours presque plus important que le titre, une immersion exceptionnelle au cœur des réseaux de blanchiment, édité chez Fayard. Alors c'est l'affaire Virus et ce réseau qui agit entre la France, le Maroc et la Suisse. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez à découvrir en commençant à enquêter? Est-ce que vous pensiez tomber sur, j'allais dire, sur un truc pareil, sur un montage aussi sophistiqué?
Non, vraiment pas. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette enquête, en fait. C'est vraiment un cas d'école, comme vous le disiez un peu plus tôt. Ce à quoi on s'attendait pas en particulier, c'était à trouver en fait un service professionnalisé qui existe en parallèle des trafics. Donc ces fameux SARAF qui portent des noms différents selon les lieux. Ça va être un Doleros au Brésil, un Money Broker aux États-Unis, un SARAF au Maghreb. Mais ils ont tous la même fonction, et cette fonction, en fait, c'est de prendre en charge les opérations de blanchiment pour les trafiquants. Et l'autre découverte qui nous a vraiment étonné à ce moment-là, c'était de s'apercevoir que, non content de prendre l'argent des trafiquants, ils le revendaient à d'autres clients. Et effectivement, il y avait de nombreux fraudeurs fiscaux, mais pas seulement. Il y avait toute une faune complexe, hétéroclite, qui se compose principalement d'autres trafiquants, mais également donc de fraudeurs, de toutes sortes de personnages.
Et quelles sont les difficultés principales pour la police pour pister un tel système?
La difficulté, en fait, c'est d'arriver d'abord, d'une part, à comprendre le phénomène, d'où l'intérêt de ce type d'enquête. Ça nous a permis vraiment de cerner quels étaient les mécanismes en jeu. Et puis, d'être en mesure de suivre l'argent, au sens figuré. Parce que l'argent lui-même ne bouge pas. On l'a vu dans les explications que vous avez données. L'argent change de main. Ce qui bouge, c'est la valeur. Mais l'argent ne bouge pas. Et donc, c'est une lutte difficile pour rester au contact des différentes cibles, d'être capable de pister leur communication, de les suivre eux-mêmes et d'arriver à comprendre qui fait quoi dans cet écosystème.
Alors, vous parlez d'écosystème dans lequel se retrouvent des fraudeurs ou des évadés fiscaux. C'est un délit, évidemment, mais ils se retrouvent pris dans un système qui met en place des acteurs encore plus délictuels encore. Et donc ces gens qui fraudent le fisc, qui s'évadent, se retrouvent là-dedans. Ah oui. C'est intéressant parce que c'est un moyen de remettre la main dessus aussi.
C'est intéressant à plus d'un titre. C'est intéressant. Déjà, c'est terrible pour eux parce que ils pensaient honnêtement frauder le fisc et ils se retrouvent en fait avec deux policiers sur le pas de leur porte qui leur agitent une commission rogatoire où dessus il est mentionné trafic de stupéfiants international. Donc tout de suite, ça stresse un peu.
Ah oui.
Mais l'intention du juge d'instruction a jamais été de leur faire porter la responsabilité du blanchiment du trafic en lui-même, puisqu'ils étaient responsables du blanchiment de leurs propres infractions, souvent la fraude fiscale. Néanmoins, ils offrent, par leurs activités délictueuses, un débouché à cet argent criminel. Puisqu'ils vont permettre d'écouler l'argent. Ça, c'était très intéressant. Et puis, ça donnait lieu après à des situations cocasses où vous voyez ces gens qui se présentaient au service avec des valises littéralement de fausses factures en disant « Regardez, j'ai jamais voulu trafiquer de la drogue. En réalité, je faisais de la fausse facture. »
Quoi, je suis un fraudeur honnête, monsieur.
Voilà, je suis un honnête fraudeur.
Un honnête fraudeur, c'est ça. Après Virus, il y a eu en quelque sorte une suite avec l'affaire baptisée Rétrovirus. Vous pouvez nous raconter rapidement cette suite, peut-être inattendu, qui vous a mis d'ailleurs sur la piste d'un autre réseau de blanchiment qui cette fois a passé, je crois, par la Belgique, Dubaï et l'Inde. Racontez-nous tout ça.
C'était un autre réseau sans en être un autre. En réalité, c'était les mêmes SARAF, donc les mêmes changeurs à l'autre bout de la chaîne, donc au Maroc, qui utilisaient les services de ces Indiens. Alors là, l'idée était encore plus simple que la précédente. Ça consistait simplement à prendre l'argent liquide, le transformer en or en Belgique, voyager avec jusqu'à Dubaï, le revendre et déposer le fruit de la vente sur des comptes bancaires qui bien souvent appartenaient à des bureaux de change, pour brouiller un peu les pistes. Là où ça devenait un peu amusant, c'est qu'en fait les acheteurs de cet or, les gens à qui on revendait l'or à Dubaï, étaient en fait des joailliers indiens qui eux cherchaient à faire de la contrebande d'or entre Dubaï et l'Inde, en particulier la région de Chennai. Madras. Et donc c'est amusant parce qu'on suivait comme ça le parcours de cet argent qui avait pu être collecté dans la banlieue de Saint-Étienne et qui finalement va aller alimenter une bijouterie en Inde, quoi.
Ouais. Le délit est mondialisé.
C'est totalement mondialisé. Il joue beaucoup là-dessus et c'est ce qui fait la difficulté des enquêtes en réalité. C'est vraiment
c'est ça.
Bah oui, parce que les mécanismes en eux-mêmes sont pas d'une grande sophistication en fait. Mmh. D'ailleurs, ils sont, vous l'aviez souligné, ils existent depuis vraiment très longtemps. Ce qui rend les choses complexes du point de vue de l'enquête et du point de vue judiciaire, c'est le côté très international de tout ça et la nécessité absolu de coopérer avec nos homologues dans les différents pays pour pouvoir aboutir à une compréhension globale du système.
Est-ce que ça permet de comprendre mieux le mécanisme alors du trafic de drogue? Les policiers le connaissent bien, le mécanisme. Est-ce que ça apporte des informations intéressantes?
Ben, ça permet de quantifier un trafic, déjà.
Oui, mais c'est la même
chose. Parce que quand vous prenez, par exemple, le personnage que vous évoquiez, la lunette, bon, voilà, on a là un type d'une vingtaine d'années qui a quand même collecté 121 millions d'euros en 12 mois.
Oui, c'est pas mal.
Bon, c'est pas mal. Et donc après, si vous faites des règles de 3, vous arrivez quand même à savoir à peu près à quelle quantité de drogue ça correspond. Et d'ailleurs, les sommes qui ont été révélées par ces dossiers, virus, rétrovirus, etc., dépassaient de loin le trafic qui initialement avait déclenché notre enquête.
Pourquoi avait un intitulé virus? Parce que rétrovirus, on comprend à partir du moment où il y a virus. C'est pour être dans l'air du temps.
Par manque d'imagination. Bah, à l'époque, c'était pas dans l'air du temps. Je l'ai beaucoup regretté d'ailleurs, parce que ça m'a bloqué beaucoup de messages e-mail à cause du virus. Non, c'est parce que c'était les petits codes, en fait, en interne. Lorsqu'on ne connaît pas l'identité des gens qu'on met sur écoute, on leur donne une lettre. Généralement, c'est H pour homme. Donc, si c'est un homme inconnu, ça fait HX, etc. Et puis, à la fin, on avait un truc du genre H1N1. Alors, c'est voilà, virus.
Ah, bah oui, d'accord. Quand vous arrivez à mettre au jour un système, et puis que vous, donc virus, et puis que vous apercevez qu'il y a rétrovirus, est-ce que vous êtes inquiet sur, face à l'imagination que peuvent avoir ces gens-là, qui pourraient trouver encore un autre système qui vous ferait galérer? Ou est-ce que vous pensez que on peut pas inventer toujours des choses différentes, et que là, en mettant au jour tout ça, vous tenez peut-être le bon bout?
Ben, je pense qu'on tient le bon bout pour plusieurs raisons. C'est que ces mécanismes-là qu'on décrit sont toujours à l'œuvre, étaient à l'œuvre depuis très longtemps déjà, le sont toujours. Que malheureusement, c'est extrêmement difficile d'enquêter sur ce type de réseau. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts et c'est très compliqué dans un monde de communication cryptée en plus. Je dirais que pour être un peu cynique, le taux de satisfaction client est quand même très élevé. Et donc, il y a peu de chances quand même que les gens qui sont les animateurs de ces réseaux décident d'innover, alors même que bon, ça fonctionne relativement bien.
Bien, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Étienne Dao avec une chanson de circonstance. Écoutez bien le titre, Virus X.
Flamme orageuse, solitaire, héroïque, disperse dans l'océan ses poèmes organiques, l'azur fou de tes yeux m'a lancé un défi et je lèche le sang de cruels ennemis. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Virus ex. Virus X, ton cœur bat la chamade, zigzag les yeux bandés, j'échappe à l'embuscade, le plus sûr des réflexes serait de vite fait tracer. Nul besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. Besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus X. Virus X. Virus X. Paris ex. Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex. Du haut de Saint-Vincent, les gargouilles nous surveillent. Virus Saint-Malo, rose pâle, virus se déplie, se réveille. Nul besoin de me contaminer. Saint-Malo, rose pâle, virus se déplie, se réveille. Virus X, virus X.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Quentin Mugue, je rappelle que vous êtes capitaine de police et que vous êtes l'auteur, avec Hélène Constanti, du livre Argent sale, la traque, une immersion exceptionnelle au cœur des réseaux de blanchiment. Je disais tout à l'heure dans le récit que les policiers de votre service n'étaient pas des gens dans un bureau avec leur tasse de thé là et devant leur ordinateur, dans le silence. Non, non, au contraire, vous dites que vous êtes sur le terrain, que vous rencontrez tout type de personnages et qu'à l'inverse de vos collègues, vous pouvez peut-être plus facilement employer des méthodes policières classiques. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Oui, alors mon service, c'était l'OCRGDF, donc l'Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière, dont la mission, en fait, consiste principalement à s'intéresser au blanchiment du crime organisé et aux grandes escroqueries. Elle est également une plateforme qui s'occupe de récupérer les avoirs criminels. Effectivement, la mission de ce service, c'est vraiment de mener des enquêtes proactives de terrain sur des sujets qui sont complexes. Donc c'est ce qu'on expliquait lorsque je vous dis bon ben voilà, ceci est un vol, tout le monde comprend ce que c'est qu'un vol. Quelqu'un en a tué un autre, bon ben c'est un meurtre. Une affaire de blanchiment, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça recouvre exactement comme réalité? Comment est-ce qu'on la démontre? Quels sont les moyens employés? Encore une fois, ça devient souvent très international, etc. Donc ça demande des compétences très particulières. Donc on a la chance, au sein de cet office spécialisé, d'avoir un ensemble d'enquêteurs extrêmement spécialisés qui sont capables d'être à l'aise dans tout un tas de domaines qui dépassent aussi le domaine purement financier. Parce que le motif du crime... Ça paraît un peu basique, mais c'est l'argent.
Oui.
Lorsqu'on travaille dans le blanchiment de l'argent, dans la lutte contre le blanchiment de l'argent, on a la chance, en tant que policier, d'être à la fois extrêmement spécialisé et en même temps très généraliste, puisque vous allez travailler dans une même année sur une foule d'activités différentes qui toutes génèrent de l'argent, à l'exception des crimes passionnels.
Oui. Et ces délits-là, c'est pas des crimes, ce sont des délits. Ça passe en correctionnel, ça passe par l'assise en principe.
Alors c'est un crime ou un délit parce qu'il y a ce qu'on appelle l'empreinte pénalité, c'est-à-dire que si les gens blanchissent en le sachant, trafic de stupes international qui est un crime.
Oui.
Alors dans ce cas-là, il y a une empreinte pénalité. Les gens peuvent être poursuivis sur la même base.
Ah oui, d'accord. Alors, vous parliez des personnes très spécialisées, vous avez eu un hacker à la rescousse, et vous dites, je dois rendre hommage au hacker britannique Dan O'Wigan, alors membre de l'OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est vrai, en fait, ça s'inscrit dans des façons de travailler qui sont plus larges, ça s'inscrit surtout dans le fait qu'on va de plus en plus rechercher de l'information source ouverte. C'est ce que j'ai fait dans ce dossier. Le premier réflexe maintenant, pour n'importe quel policier, d'ailleurs,
Internet.
C'est de se jeter sur Internet. En fait, on en arrive même parfois à en oublier les fichiers de police, tant on trouve de choses en source ouverte. Et ce Dan O'Wigan en particulier avait fait un travail extraordinaire. Il avait réindexé le registre du commerce du Panama. C'est-à-dire qu'il existe, comme partout d'ailleurs, un registre du commerce, seulement il était très compliqué de le consulter, celui du Panama, parce que pour pouvoir accéder aux fiches des sociétés, ce qui m'intéressait, il fallait déjà connaître le numéro de la fiche, ce qui paraît un peu difficile quand même. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a en fait téléchargé l'intégralité des données, il a permis en fait de faire une recherche par nom d'administrateur ou nom de société, etc. Et c'est ainsi que, en tapant le nom de certaines de mes cibles, je me suis aperçu qu'il dirigeait plus de 300 trusts au Panama et que d'ailleurs la plupart de ces trusts, vous l'aviez souligné, avaient été créés par le cabinet Mossack Fonseca qui, quelques années plus tard, défraiera la chronique dans les Panama Papers.
Et vous dites un travail de fourmi tout ça, mais tout devient enfin très clair. À ce moment-là, j'ai l'impression de relire l'évangile après avoir rencontré Jésus-Christ. Ça y est, on les tient.
C'est vrai, parce que évidemment, il y avait énormément d'écoutes téléphoniques, si vous voulez, et les choses sont parfois un peu sibyllines. Vous savez pas trop de quoi il s'agit. Beaucoup de noms de sociétés étaient évoqués, dont on connaissait rien finalement. Et là, subitement, j'avais la liste complète de toute l'architecture financière qui avait été mise en place par ce groupe. Et donc les retranscriptions des coups téléphoniques prenaient un sens tout à fait différent en ayant sous les yeux toute cette documentation. Donc c'est vraiment un travail qui, à la fois, est un travail documentaire précis et en même temps un travail de police classique, filature, écoute, surveillance.
Alors, on s'est dit que finalement, que ce soit pour les trafiquants de drogue, les fraudeurs fiscaux et autres, la solution, c'est de recouper les débouchés. S'il n'y a pas de débouchés, l'activité s'arrête. On est bien d'accord. Vous travaillez là-dessus.
D'accord, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, ça vaut également pour le trafic de drogue lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur l'offre, mais également sur la demande. C'est-à-dire qu'on essaie de limiter la demande par des campagnes de prévention, etc. Et puis, on intervient de manière répressive sur l'offre. C'est la même chose, si vous voulez, dans le cadre du blanchiment. La difficulté, c'est que là, on a effectivement affaire à des publics très disparats. C'est-à-dire, ça va être sans doute un travail de longue haleine que de convaincre les fraudeurs fiscaux de cesser de frauder le fisc.
Alors, l'affaire des Pandora Papers, dévoilée il y a quelques semaines par le Consortium International des Journalistes, auquel, je rappelle, Radio Français est associé, et dans lequel l'argent de la drogue est lessivé, je parle des Pandora Papers, hein, des révélations, vous en pensez quoi? C'est intéressant quand même qu'on puisse être alerté et qu'il y ait un contrôle après d'un consortium international de journalistes. Vous, ça apporte de l'eau à votre moulin? Est-ce que ça vous rend des services? Qu'est-ce que vous en pensez en gros?
Ça peut rendre service. Ça rend service déjà si vous avez déjà des enquêtes ouvertes, puisque ça vous renseigne sur un ensemble d'éléments qui peut-être n'ont pas pu parvenir à votre connaissance parce que précisément c'est à l'étranger. D'un autre côté, il faut faire un peu attention parce que le simple fait de posséder une société au Panama ou aux Îles britanniques n'indique pas nécessairement que vous êtes un trafiquant de drogue international.
Oui, bien sûr.
Il peut y avoir aussi des tas de bonnes raisons et parfaitement légales d'avoir de telles structures. Mais c'est sûr que ces enquêtes de grande ampleur journalistiques ont permis quand même de révéler des malversations très importantes, ont déclenché de très nombreuses enquêtes, c'est donc une excellente chose, et font peser également probablement un certain stress sur les gens qui utilisent ce type de montage. Donc c'est une bonne chose, je crois.
Dernière question, pourquoi avez-vous écrit ce livre? C'était quoi votre intention éditoriale?
Alors l'intention, c'était non seulement d'expliquer ces mécanismes, aussi à destination de mes propres collègues et puis du monde judiciaire en général, mais aussi de donner à voir pour un public moins spécialisé ce que c'était que la vie au quotidien dans un groupe de police judiciaire, l'engagement que ça nécessitait, l'intérêt de ce travail-là, de manière générale. Voilà, je voulais faire part de mon enthousiasme pour ce métier.
C'est fait. Merci infiniment, Quentin Mug. Argent sale, la traque, c'est chez Fayard. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Aujourd'hui, le dossier virus, le blanchiment de l'argent sale, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Michel Bézikian. Ce soir, à 22h50 sur France 2, Affaires Sensibles sera là, comme lundi dernier. Affaires Sensibles sera là pour vous raconter une histoire nucléaire que nous avions compté en radio déjà, mais là avec d'autres éléments. Le jour où la France est passée à deux doigts de la catastrophe, c'était à la centrale nucléaire du Blayais.